Madame de la Reynière. Après mon mariage, je suis allée souper chez Madame de la Reynière et passer quelques soirées dans le bel hôtel que son mari avait fait bâtir rue des Champs-Élysées, où se réunissait la meilleure compagnie de Paris. Madame de la Reynière était née Jarente. Sa famille, noble mais très pauvre, lui avait fait épouser Monsieur de la Reynière, un de nos plus riches financiers, et tout en elle annonçait la contrariété qu'elle éprouvait à porter un nom bourgeois. Elle avait été belle, très grande et très maigre. Son air noble et fier était remarquable. Elle s'était rendue la maîtresse souveraine de la maison, dans laquelle elle recevait toujours avec la plus grande dignité, afin qu'on ne perdît pas le souvenir de sa naissance. Comme on demandait un jour à Doyen le peintre, qui venait de dîner chez elle, ce qu'il pensait de Madame de la Reynière, « Elle reçoit fort bien, répondit-il, mais je la crois attaquée de noblesse. » Son mari était un bonhomme dans toute l'étendue du terme, facile à vivre, ne disant jamais de mal de personne. Néanmoins, on le tournait en ridicule, ou plutôt, on s'amusait de lui pour la prétention qu'il avait de savoir peindre et de savoir chanter. Ces deux prétendus talents occupaient toutes ses journées, l'un le matin et l'autre le soir. Il avait une peur horrible du tonnerre, au point d'avoir fait arranger dans ses caves une chambre tapissée d'un double taffetas dans laquelle je suis descendue par curiosité. Dès qu'un orage commençait, il se réfugiait sous cette voûte où l'un de ses gens battait de toutes ses forces sur un gros tambour tant que grondait la foudre. Nulle puissance humaine n'aurait pu le faire sortir de là avant que le ciel n'eût repris sa sérénité. Comme il soutenait cependant qu'il n'avait point peur du tonnerre, qu'il ne se réfugiait dans cette cave que pour éviter la vive impression que l'orage faisait sur ses nerfs, on eut la malice d'enlever cette excuse au pauvre homme. Un jour qu'il était allé faire sa partie à la muette chez la duchesse de Polignac qui habitait ce château en été, on dressa la table de jeu près d'une fenêtre ouvrant sur le parc, au bas de laquelle le comte de Vaudreuil avait fait placer deux fusées. Monsieur de la Reynière était à jouer tranquillement, car le temps était fort calme, quand tout à coup on mit le feu à l'artifice, dont il eut une telle frayeur qu'en s'écriant « Le tonnerre ! Le tonnerre !» il se trouva presque mal. On parvint bientôt à le rassurer en lui expliquant la chose. Toutefois, il n'en fut pas moins prouvé que le tonnerre n'agissait point sur ses nerfs, mais qu'il en avait peur. La société de Madame de la Reynière se composait des personnes les plus distinguées de la cour et de la ville. Elle attirait aussi chez elle les hommes célèbres dans les arts et dans la littérature. L'abbé Barthélemy, auteur d'Anarchasis, y passait sa vie. Le comte d'Adhéma, si spirituel et si aimable, y venait presque tous les soirs, ainsi que le comte de Vaudreuil et le baron de Besenval, colonel général des Suisses. Les grandes soirées de Madame la Reynière rassemblaient habituellement les plus charmantes femmes de la cour. C'est là que j'ai fait connaissance avec la comtesse de Ségur, qui était alors aussi jolie que bonne et aimable. Sa douceur, son affabilité, la faisaient aimer dès le premier abord. Elle ne quittait pas son beau-père, le maréchal de Ségur, vieux et infirme, qui trouvait en elle une véritable Antigone. Son mari, connu par son esprit et son talent littéraire, était à cette époque ambassadeur en Russie. Pour qu'il ne manquât rien au charme des soirées de Madame de la Reynière, on y faisait très souvent de la musique dans la galerie, et c'était Sacchini, Piccini, Gara, Richet et autres célèbres artistes qui l'exécutaient. Enfin, il serait difficile maintenant de faire comprendre avec quelle délice on se rassemblait dans ce bel hôtel, quelle aménité, quelle bonne manière régnait dans ces salons remplis de personnes charmées de se trouver ensemble. Au reste, à l'époque dont je parle, il existait plusieurs maisons de ce genre, et je citerai surtout celle des maréchals de Boufflers et de Luxembourg. Quoique l'on soit forcé d'avouer que ces deux grandes dames ne passaient point pour les femmes les plus morales de leur temps, les jeunes femmes se rendaient chez elles avec empressement. « C'est là, me disait-elle, que nous prenons les meilleures leçons du ton de la bonne compagnie et que nous recevons les meilleurs conseils. » La marquise de Boufflers, belle-fille de la maréchale et mère de ce chevalier de Boufflers, si connu par son esprit, est l'auteur d'une charmante chanson espèce de code social que je copie ici parce qu'elle est peu connue. Sur l'air, sentir avec ardeur flamme discrète. Il faut dire en deux mots ce que l'on veut dire, les longs propos sont sots. Il faut savoir lire avant que d'écrire, et puis dire en deux mots ce que l'on veut dire. Les longs propos sont sots, il ne faut pas toujours parler, citer, dater, mais écouter. Il faut savoir trancher l'emploi du moi, voici pourquoi. Il est tyrannique, trop académique. L'ennui marche avec lui. Je me conduis toujours ainsi, ici, aussi, j'ai réussi. Pour en revenir à Madame de la Reynière, devenue veuve, il lui restait un fils, bien éloigné de partager la fierté nobiliaire de sa mère, et qui, sous ce rapport, a dû la désespérer plus d'une fois. D'abord, il s'obstinait à se faire appeler Grimaud de la Reynière. Le véritable nom de Monsieur de la Reynière était Grimaud, et le plus souvent, Grimaud tout court. Ensuite, il avait pris en tendresse sa parenté du côté paternel, et sans cesse, au grand dîner de sa mère, il parlait devant toute la cour de son oncle l'épicier, de son cousin le parfumeur, ce qui mettait la pauvre femme au supplice. Ce Grimaud de la Reynière avait beaucoup d'esprit, quoiqu'il se plût à se montrer original en toute espèce de choses. Jamais, par exemple, il ne posait son chapeau sur sa tête. Mais comme il avait prodigieusement de cheveux, son valet de chambre construisait un toupet d'une hauteur démesurée. Un jour qu'il se trouvait à l'amphithéâtre de l'opéra, où l'on représentait un nouveau ballet, un homme de petite taille, placé derrière lui, maudissait tout haut ce mur de nouvelle espèce qui lui cachait totalement le théâtre. Las de ne rien voir, le petit homme commença par introduire un de ses doigts dans le toupet, puis deux, et finit par former une sorte de lorgnette à laquelle il appliqua son œil. Pendant tout ce manège, M. de la Reynière ne bougea pas, ne dit mot. Mais le spectacle fini, il se lève, arrête d'une main le monsieur qui s'apprêtait à sortir, et de l'autre, tirant un petit peigne de sa poche. Monsieur, dit-il avec un grand sang-froid, je vous ai laissé faire tout ce qu'il vous a plu de mon toupet pour vous aider à voir le ballet à votre aise. Mais je vais souper en ville, vous sentez qu'il ne m'est pas possible de me présenter dans l'état où vous avez mis ma coiffure, et vous allez avoir la bonté de la raccommoder, ou nous nous couperons demain la gorge ensemble. Monsieur, répondit l'inconnu en riant, à Dieu ne plaise que je me batte avec un homme aussi complaisant que vous l'avez été pour moi. Je vais faire de mon mieux. Et prenant le petit peigne, il rapprocha les cheveux tant bien que mal, après quoi tous deux se séparèrent les meilleurs amis du monde. David. Je recherchais avec empressement la société de tous les artistes renommés et principalement celle des artistes qui se distinguaient dans mon art. David venait donc assez fréquemment chez moi quand tout à coup il n'y parut plus. L'ayant rencontré dans le monde, je crus devoir lui adresser quelques reproches aimables à ce sujet. « Je n'aime pas, me dit-il, à me trouver avec des domestiques de condition. »« Comment ? » répondis-je. « Avez-vous pu remarquer que je traite les personnes de la cour mieux que d'autres personnes ? Ne me voyez-vous pas accueillir tout le monde avec les mêmes égards ?» Et comme il insistait d'un air humoriste, « Ah, dis-je en riant, je crois que vous avez de l'orgueil, que vous souffrez de n'être pas duc ou marquis. Pour moi, à qui les titres sont parfaitement indifférents, je reçois avec plaisir tous les gens aimables. » Depuis lors, David n'est point revenu chez moi. Il fit même rejaillir sur ma personne la haine qu'il portait à quelques-uns de mes amis. La preuve en est que, plus tard, il se procura je ne sais quel gros livre écrit contre M. de Calonne, et dans lequel on n'avait pas manqué d'inscrire toutes les infâmes calomnies dont j'avais été l'objet. Ce livre restait constamment dans son atelier sur un tabouret, toujours ouvert, précisément à la page où il était question de moi. Une pareille méchanceté était si noire et si puérile à la fois que je n'y aurais point ajouté croyance si je n'en eusse été instruite par M. de Fitzjames, le comte Louis de Narbonne et d'autres gens de ma connaissance qui tous avaient remarqué le fait, et même à plusieurs reprises. Il faut dire toutefois que David aimait tellement son art qu'aucune haine ne l'empêchait de rendre justice au talent qu'on pouvait avoir. Après que j'eus quitté la France, j'envoyai à Paris le portrait de Paesiello que je venais de faire à Naples. On le plaça au salon en pendant d'un portrait peint par David, mais dont sans doute il était peu satisfait. S'étant approché de mon tableau, il le regarda longtemps, puis se retournant vers quelques-uns de ses élèves et d'autres personnes qui l'environnaient, « On croirait, dit-il, mon portrait fait par une femme et le Paesiello par un homme. » C'est de M. Lebrun qui était témoin que je tiens ces paroles, et de plus, j'ai la certitude qu'en toute occasion, David ne me refusait point ses éloges. Il est bien vraisemblable que des louanges aussi flatteuses sur mon talent m'auraient fait oublier tôt ou tard les attaques de David contre ma personne. Mais ce que je n'ai jamais pu lui pardonner, c'est l'atroce conduite qu'il a tenue pendant la Terreur. Ce sont les persécutions exercées lâchement par lui contre un grand nombre d'artistes, entre autres contre Robert le paysagiste, qu'il fit arrêter et traiter dans la prison avec une sévérité qui allait jusqu'à la barbarie. Il m'aurait été impossible de me retrouver avec un pareil homme. Lorsque je fus rentré en France, un de nos plus célèbres peintres étant venu chez moi, me dit dans la conversation que David avait un vif désir de me revoir. Je ne répondis pas, et comme le peintre dont je parle a prodigieusement d'esprit, il comprit que mon silence n'était point celui auquel on peut appliquer le proverbe « qui ne dit rien consent ». Monsieur de Beaujon. Monsieur de Beaujon m'ayant fait demander de faire son portrait, qu'il destinait à l'hôpital fondé par lui dans le faubourg du Roule, et qui porte encore son nom, je me rendis dans le magnifique hôtel qu'on appelle aujourd'hui l'Élysée Bourbon, attendu que l'infortuné millionnaire était hors d'état de venir chez moi. Je le trouvai seul, assis sur un grand fauteuil à roulettes, dans une salle à manger. Il avait les mains et les jambes tellement enflées qu'il ne pouvait se servir ni des unes ni des autres. Son dîner se bornait à un triste plat d'épinards. Mais plus loin, en face de lui, était dressée une table de 30 à 40 couverts où se faisait, disait-on, une chair exquise et qu'on allait servir pour quelques femmes, amies intimes de M. de Beaujon et les personnes qu'il leur plaisait d'inviter. Ces dames, toutes fort bien nées et de très bonne compagnie, étaient appelées dans le monde les berceuses de M. de Beaujon. Elles donnaient des ordres chez lui, disposaient entièrement de son hôtel, de ses chevaux, et payaient ses avantages avec quelques instants de conversation qu'elles accordaient au pauvre impotent, ennuyé de vivre seul. M. de Beaujon voulut me retenir à dîner, ce que je refusai, ne dînant jamais hors de chez moi. Mais nous convînmes du prix et de la pose de son portrait. Il désirait être peint, assis devant un bureau, jusqu'à mi-jambe, avec les deux mains, et je ne tardai pas à commencer et à finir cet ouvrage. Quand je pus me passer du modèle, j'emportai le portrait chez moi pour terminer quelques détails, et j'imaginai de placer sur le bureau le plan de l'hospice. Monsieur de Beaujon, en ayant été instruit, m'envoya aussitôt son valet de chambre pour me prier instamment d'effacer ce plan, et pour me remettre 30 louis en dédommagement du temps que j'y emploierai. J'avais à peine tracé l'esquisse, en sorte que je refusai naturellement les 30 louis. Mais le valet de chambre revint encore le lendemain, insistant de la part de son maître, au point que, pour le forcer à remporter cet argent, je fus obligé d'effacer le plan devant lui, afin de lui prouver que cela ne me faisait pas perdre 5 minutes. Pendant que je faisais le portrait de M. de Beaujon, je voulus visiter son bel hôtel que j'avais toujours entendu citer pour sa magnificence. Aucun particulier, en effet, n'était logé avec autant de luxe. Tout était d'une grande richesse et d'un goût exquis. Un premier salon renfermait des tableaux à effet, dont aucun n'était fort remarquable, tant il est aisé de tromper les amateurs, quelque prix qu'ils puissent mettre à leurs acquisitions. Le second était un salon de musique. Grands et petits pianos, instruments de toute espèce, rien n'y manquait. D'autres pièces, ainsi que les boudoirs et les cabinets, étaient meublés avec la plus grande élégance. La salle de bain surtout était charmante. Un lit, une baignoire étaient drapés, comme les murailles, en belle mousseline à petits bouquets, doublés de roses. Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli. On aurait aimé à se baigner là. » Les appartements du premier étage étaient meublés avec autant de soin. Dans une chambre, entre autres, qui était ornée de colonnes, on avait placé au milieu une énorme corbeille dorée et entourée de fleurs qui renfermait un lit, lit dans lequel personne n'avait jamais couché. Toute cette façade de l'hôtel donnait sur le jardin que, vu son étendue, on pouvait appeler le parc qu'un habile architecte avait dessiné et qu'embellissait une énorme quantité de fleurs et d'arbres verts. Il me fut impossible de parcourir cette délicieuse habitation sans donner un soupir de pitié à son riche propriétaire et sans me rappeler une anecdote que l'on m'avait contée peu de jours avant. Un Anglais, jaloux de voir tout ce qu'on citait comme curieux à Paris, fit demander à M. de Beaujon la permission de visiter ce bel hôtel. Arrivé dans la salle à manger, il y trouva la grande table dressée, ainsi que je l'avais trouvée moi-même, et, se retournant vers le domestique qui le conduisait, « Votre maître, dit-il, doit faire une bien excellente chère. »« Hélas, monsieur, répondit le cicerone, mon maître ne se met jamais à table, on lui sert seulement un plat de légumes. » L'Anglais passant alors dans le premier salon, « Voilà du moins ce qui doit réjouir ses yeux, » reprit-il en montrant les tableaux. « Hélas, monsieur, mon maître est presque aveugle. » « Ah !» dit l'Anglais en entrant dans le second salon. « Ils s'en dédommagent, j'espère, en écoutant de la bonne musique. »« Hélas, monsieur, mon maître n'a jamais entendu celle qu'on fait ici. Il se couche de trop bonne heure dans l'espoir de dormir quelques instants. » L'Anglais regardant alors le magnifique jardin qui se déployait sous ses fenêtres. « Mais enfin, votre maître peut jouir du plaisir de la promenade ?» « Hélas, monsieur, il ne marche plus. » Dans ce moment, arrivaient les personnes invitées à dîner, parmi lesquelles se trouvaient de fort jolies femmes. L'Anglais reprend. « Enfin, voilà plus d'une beauté qui peuvent lui faire passer des moments très agréables. » Le domestique ne répondit à ces mots que par deux « Hélas » au lieu d'un et n'ajouta rien de plus. Monsieur de Beaujon était très petit et très gros, sans aucune physionomie. Monsieur de Calonne, que j'ai peint en même temps, offrait son parfait contraste, et les deux portraits se trouvant exposés chez moi, l'abbé Arnaud, qui les vit à côté l'un de l'autre, s'écria « Voilà précisément l'esprit et la matière !» Monsieur de Beaujon avait été le banquier de la cour sous Louis XV, et ses opérations financières furent toujours si habiles qu'avant sa vieillesse, il possédait déjà des millions. Il faut dire à sa louange qu'il dépensait en bonnes œuvres une grande partie de son immense fortune. Jamais un malheureux ne s'est adressé vainement à lui, et l'hôpital du Faubourg du Roule recommande encore aujourd'hui son nom comme celui d'un bienfaiteur de l'humanité. Monsieur Boutin. Un autre financier, immensément riche et tout aussi bienfaisant que M. de Beaujon, était M. Boutin, pour qui j'avais beaucoup d'amitié. M. Boutin était plus jeune quand je fis connaissance avec lui. Il était petit et boiteux, gai, spirituel, et d'un caractère si affable, si bon, que l'on s'attachait véritablement à lui dès qu'on le voyait un peu intimement. Comme il possédait une très grande fortune, il recevait souvent, et même avec une extrême noblesse à ses nombreux amis, sans que cela portât en rien préjudice au secours qu'il accordait à tant de pauvres dont il était l'appui. M. Boutin faisait les honneurs de chez lui avec une grâce parfaite. J'ai pu en juger souvent, car il avait arrangé pour moi, disait-il, un dîner du jeudi où se trouvaient tous mes intimes. Brongniart, Robert et sa femme, Lebrun le poète, l'abbé de Lille, le comte de Vaudreuil, qui ne manquait jamais cette réunion quand il se trouvait à Paris le jeudi, etc., etc. Nous étions au plus 12 personnes à table, et ces dîners étaient si amusants qu'ils me faisaient fausser une fois par semaine la parole que je m'étais donnée de ne jamais dîner hors de chez moi. Ils avaient lieu dans cette charmante maison de M. Boutin, placé sur la hauteur du magnifique jardin qu'il avait nommé Tivoli. À cette époque, la rue de Clichy n'était point encore bâtie, et quand on se trouvait là, au milieu d'arbres superbes qui formaient de belles et grandes allées, On pouvait se croire tout à fait à la campagne, je puis même dire que cette belle habitation me semblait un peu trop isolée. J'aurais eu peur d'y aller le soir, et je conseillais souvent à M. Boutin de ne jamais revenir seul. Lorsque j'eus quitté la France, mon frère m'écrivit que M. Boutin avait continué ses dîners du jeudi en souvenir de moi, que l'on y buvait à ma santé ainsi qu'à celle de M. de Vaudreuil qui avait émigré alors. Pour son malheur, M. Boutin pensa comme M. de Laborde, qui me disait dans une lettre que je reçus de lui à Rome « Je reste en France, je suis tranquille, comme je n'ai jamais fait de mal à personne. » Hélas, lui aussi, ce bon et aimable M. Boutin n'avait jamais fait de mal à personne. Tous deux n'en sont pas moins tombés sous la hache révolutionnaire, car tous deux étaient riches et l'on voulait leur bien. Je ne puis exprimer la douleur que me fit éprouver cette nouvelle. M. Boutin était un de ces hommes que je regretterai toute ma vie. Le gouvernement s'empara de tout ce qu'il possédait. Son beau parc fut totalement détruit, à l'exception d'une petite partie dont on fit une promenade à la mode sous le nom de Tivoli, et dans laquelle se donnent, dit-on, de fort belles fêtes que je n'ai jamais vues. Car on pense bien qu'à mon retour en France, je n'ai pas eu le courage de retourner dans ce triste lieu. Monsieur de Saint-James. Monsieur de Saint-James était fermier général, puissamment riche et vraiment financier dans toute l'étendue du terme. C'était un homme de moyenne grandeur, gros et gras, au visage très coloré, de cette fraîcheur qu'on peut avoir à 50 ans passés quand on se porte bien et qu'on est heureux. Monsieur de Saint-James tenait un état de maison de la plus grande opulence. Il habitait un de ces beaux hôtels de la place Vendôme et donnait là de très grands et très bons dîners, où il réunissait 30 ou 40 personnes pour le moins. N'ayant pu refuser d'y aller une fois, je regrettais beaucoup de n'être ni gourmande ni friande, car sous ces deux rapports, j'aurais été complètement satisfaite, tandis que cette société si nombreuse ne me sembla pas, à beaucoup près, aussi aimable que celle qu'on trouvait chez ce bon M. Boutin. M. de Saint-James recevait son monde avec plus de bonhomie que de grâce. Après le dîner, on passait dans un superbe salon, entièrement garni de glace. Mais tout cela ne faisait point que tant de personnes réunies, qui ne se connaissaient pas, pussent causer ensemble avec cette espèce de confiance et d'intimité qui fait le charme des conversations. Plus tard, lorsque M. de Saint-James eut arrangé sa maison et son magnifique jardin de Neuilly, ce qu'on a toujours appelé la folie Saint-James, il m'engagea à venir y dîner avec quelques-uns de mes amis. Cette journée fut agréable. Il nous promena dans ce beau parc qui venait de coûter des trésors. Entre autres folles dépenses, on avait construit un rocher factice dont les énormes pierres, apportées de fort loin sans doute et à bien grands frais, avaient l'air de n'être que suspendues. J'avoue que je le traversais très rapidement, tant ces voûtes immenses me paraissaient peu solides. C'est dans cette superbe habitation que M. de Saint-James se plaisait à donner de véritables fêtes. Je m'y rendis un jour pour y voir jouer la comédie. Tant de personnes étaient invitées et parcouraient le jardin avant et après le spectacle qu'on se croyait dans une promenade publique. Il faut croire que la Révolution n'est point arrivée à temps pour punir M. de Saint-James d'avoir étalé tant de magnificence, car je n'ai jamais entendu dire, ni à l'étranger, ni depuis mon retour en France, qu'il ait été guillotiné. Une mort naturelle l'aura soustrait au sort affreux de M. de Laborde et de M. Boutin. La comtesse d'Angevilliers. Madame d'Angevilliers était ce qu'on appelle un bel esprit. Elle en avait déjà la réputation lorsqu'elle était Madame Marché. Tous les hommes de lettres et même les savants composaient alors sa société. Le comte d'Angevilliers, qu'elle recevait souvent, en devint amoureux et l'épousa. Elle avait un tel ascendant sur lui qu'il ne parlait point en sa présence, quoiqu'il eût de l'esprit, du goût et des connaissances qu'on pouvait apprécier aisément partout où n'était pas sa femme. Il me serait impossible de dire si Madame d'Angevilliers était laide ou jolie. Je l'ai cependant vue nombre de fois et j'ai souvent été placée à table à côté d'elle. mais elle avait toujours la figure cachée sous un voile qu'elle n'ôtait pas même pour dîner. Ce voile couvrait, ainsi que son visage, un énorme bouquet de branches d'arbres verts qu'elle portait constamment à son côté. Je ne concevais pas comment elle pouvait s'enfermer ainsi, avec ce bouquet, sans prendre mal à la tête. Mais plus tard, quand je suis entrée dans sa chambre à coucher, j'ai été encore plus surprise de voir cette chambre garnie de gradins, toujours couvert d'arbres verts de toute espèce, que l'on n'ôtait pas même la nuit. Madame d'Angevilliers était aussi polie qu'on pouvait l'être, mais si étrangement complimenteuse qu'on lui en voulait quelquefois de rendre la politesse ridicule. Un jour que M. d'Angevilliers avait engagé à dîner plusieurs artistes de l'Académie de peinture, Vestier y vint. Vestier était fort bon peintre de portraits et venait d'exposer au salon un tableau de famille très bien composé et très harmonieux qu'on avait beaucoup remarqué. Mais il pouvait avoir au moins 50 ans, il était maigre, pâle et prodigieusement laid. Madame d'Angevilliers, qui désirait lui adresser quelques mots flatteurs, lui dit tout haut « En vérité, monsieur, je vous trouve embelli. » Le pauvre Vestier devint rouge comme un coq, il regardait à droite et à gauche pour voir si ses paroles ne s'adressaient pas à quelqu'un d'autre qu'à lui, en sorte que le fou rire me prit. C'est chez Madame d'Angevilliers que j'ai dîné pour la première fois avec le marquis de Bièvre, qui est devenu célèbre comme faiseur de calembours. J'eus du malheur, car le jour dont je parle, il n'en fit aucun. Mais on m'en apprit un fort joli qu'il avait adressé à la reine. Sa Majesté lui demandant un calembour, Monsieur de Bièvre, s'étant incliné, s'aperçut que la reine avait des souliers verts. « Les désirs de votre Majesté sont des ordres, » dit-il aussitôt. L'univers est à ses pieds. Guinguenet. Guinguenet m'avait été présenté par Lebrun le poète comme son ami intime, en sorte qu'il venait quelquefois à mes soirées, quoiqu'il ne me plût sous aucun rapport. Je lui trouvais un esprit sec, sans charme et sans gaieté. Il n'était pas en harmonie avec ma société, et ses œuvres m'étaient tout aussi antipathiques que sa conversation. En 1789, il nous lut une ode qu'il venait de faire pour M. Necker. Cette ode pouvait passer pour le programme de 1793, il y parlait de victimes et soutenait qu'on ne pouvait régénérer la France sans répandre du sang. Des opinions aussi atroces me faisaient frissonner. Le comte de Vaudreuil, qui était présent, ne dit rien, mais nous nous regardâmes et je vis bien qu'ainsi que moi, il devinait l'homme. Guinguenet ne quittait guère son ami Lebrun Pindare. Sitôt après la mort de celui-ci, il alla trouver Madame Lebrun, qui, par parenthèse, avait été cuisinière, et lui demanda les manuscrits de Lebrun dont il désirait se faire éditeur. Madame Lebrun les lui remit tous. En les feuilletant pour les mettre en ordre, Guinguenet fut un peu saisi de trouver plus de 100 épigrammes faites contre lui-même. Quelques-unes étaient atroces. On conçoit que l'éditeur les mit toutes de côté, mais je l'ai toujours soupçonné de s'être vengé en faisant imprimer trop de choses faibles et inutiles dans les œuvres de Lebrun, ce qui nuit beaucoup à un recueil qui pouvait être excellent. Tout le monde sait que, la Révolution venue, Guinguenet s'y jeta à corps perdu et qu'il témoignait hautement son regret de n'avoir pas été à même de voter la mort de Louis XVI. Viger. Mon frère était un de ces hommes faits pour se voir très recherché dans la société. Il avait un excellent ton, ayant fréquenté fort jeune la bonne compagnie, de l'esprit, de l'instruction. Il faisait de très jolis vers avec une extrême facilité et jouait la comédie mieux que beaucoup d'acteurs. Il contribuait infiniment au charme et à la gaieté de toutes nos réunions. Peut-être même l'empressement que mettait le monde à le rechercher a-t-il nué à sa carrière littéraire, car nous lui prenions beaucoup de temps. Il lui en resta assez néanmoins pour se distinguer comme homme de lettres. Outre le cours de littérature qu'il fit à l'Athénée avec un grand succès, quoiqu'il succédât au cours que venait d'y faire la harpe, Viger a laissé un volume de poésie légère et plusieurs comédies écrites en vers, dont deux, Les aveux difficiles et l'entrevue sont restés fort longtemps au répertoire du théâtre français. Je suis même surprise qu'on ne les donne plus, surtout l'entrevue, charmante petite pièce que Mademoiselle Conta et Mollet jouaient admirablement. Mon frère, jeune encore, épousa la fille aînée de Monsieur de Rivière, chargée d'affaires de Saxe. C'était une femme charmante, pleine de vertus et de talents, si excellente musicienne et douée d'une si belle voix, qu'elle a chanté chez moi avec Madame Taudy, sans que la comparaison lui fût défavorable. Mon frère et Mademoiselle de Rivière n'ont laissé de leur mariage qu'un seul enfant, ma nièce, ma bien-aimée nièce, celle qui m'a rendue une fille, depuis, hélas, que j'ai perdu la mienne.